Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h, la rediffusion le mardi matin à 10h. Je m'appelle Jean-Noël, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Biotine. C'est l'émission de l'actualité scientifique, on fait un petit peu le point voilà, sur la recherche scientifique et technologique avec ce que l'on trouve comme article dans les différentes revues, que ce soit des revues traditionnelles, des revues papier ou également des revues et des articles en ligne que vous pouvez consulter régulièrement. Donc c'est un petit peu une revue de presse quelque part de cette actualité scientifique que je vous propose dans cette émission. Aujourd'hui, nous sommes donc le 9 décembre et c'était l'inauguration du RER en 1977, le réseau de transport express régional, transport en commun bien sûr en Île-de-France en 1977, un 9 décembre. Et enfin en 2013, la détection dans l'atmosphère de ce qu'on appelle la perfluorotributaire. Oh là là, ça y est, je pensais l'avoir dit. Je pensais l'avoir révisé, mais j'y arrive pas. On a détecté dans l'atmosphère le 9 décembre 2013, donc il y a une dizaine, il y a 10 ans, pile d'ailleurs, je raconte n'importe quoi, il y a pile 10 ans, on a détecté la perfluorotributylamine. C'est un gaz à effet de serre et on l'a un petit peu découvert comme ça et ça permet là encore de comprendre un petit peu le fonctionnement des gaz à effet de serre. Naissance, le 9 décembre 1868 de Manuel Antonio Gomez. Il est un prêtre catholique parce qu'il s'appelait aussi le père Himalaya. C'était un scientifique et un inventeur portugais. En 1900, le père Gomez commence ses expériences avec la construction d'un four solaire. C'est dans les Pyrénées-Orientales, au col d'Elbuc et aussi au col d'Ultréré, près de Sorède, qu'il construit le plus grand four solaire de l'époque. Nous sommes en 1900. Il fait 7 mètres de diamètre et pour la première fois, une température de 1500 degrés est atteinte, ce qui permet entre autres la fusion du fer. En 1904, il participe à l'exposition universelle de Saint-Louis aux États-Unis. Il y présente un four solaire révolutionnaire, qu'on appelle le pyréliofère, qui permet d'atteindre une température de plus de 4000 degrés. Il reçoit notamment le premier prix de cette exposition en 1904. Il revient au Portugal, il poursuit ses études et ses recherches scientifiques sur le concept d'un canon, sur des explosifs et même sur des procédés à faire tomber la pluie. Il est l'un des pionniers dans l'étude des énergies renouvelables et de l'énergie solaire en particulier. Le père Manuel Gomez meurt dans l'anonymat le plus complet à l'âge de 65 ans en 1933, alors qu'il avait permis la construction de fours solaires. Manuel Antonio Gomez, qui est donc né un 9 décembre. Décès le 9 décembre 1798 du naturaliste allemand Johann Forster. Il est Forster connu notamment pour ses contributions dans le domaine de l'ornithologie. Donc les oiseaux, il tire sa renommée de sa participation comme naturaliste au deuxième voyage de James Cook dans l'océan Pacifique. Johann Forster, décédé donc en 1798. Pas mal d'articles dans la revue de presse, et notamment celui-là qui est assez intéressant parce que le titre est, accroche. Hein, il y a toujours des titres qui sont accrocheurs et qui sont assez bien réussis. Dans Futura Science, cet article, le secret de longévité des centenaires, identifié dans un test sanguin. Alors du coup, fatalement, vous êtes obligé de cliquer dessus pour savoir ce qu'il en est. Et ça révèle qu'il y a une nouvelle étude qui s'est intéressée à l'identification des différences entre les individus qui deviennent centenaires et ceux à la longévité plus courte. Les résultats ont été publiés dans la revue Geoscience et ces résultats suggèrent un lien potentiel entre la santé métabolique, la nutrition et une longévité exceptionnelle par l'intermédiaire de biomarqueurs tels que les taux de cholestérol et de glucose. Les nonagénaires et les centenaires intéressent depuis longtemps les scientifiques car ils peuvent nous aider à comprendre comment vivre plus longtemps et peut-être aussi comment vieillir en meilleure santé. C'est ce qu'explique Karine Modig, qui est donc principale auteure de cette étude. Les centenaires constituent maintenant le groupe démographique à la croissance la plus rapide du monde. Il faut savoir que leur nombre double tous les 10 ans depuis les années 1970. Jusqu'à présent, les études sur les centenaires ont souvent été menées à petite échelle et se sont concentrées sur un groupe sélectionné, ce qui excluait par exemple les centenaires vivant dans des maisons de soins. Et cette étude a été menée en Suède, parce qu'on a pu inclure les données de plus de 44 000 Suédois. C'est une étude qui est donc la plus vaste à ce jour pour comparer les profils de biomarqueurs mesurés tout au long de la vie chez les personnes qui finissent par devenir centenaires et puis donc les personnes qui vivent moins longtemps. Et cette étude a visé à décrire et à comparer ces profils de biomarqueurs à des âges similaires dans une fourchette entre 64 et 99 ans. Et elle a également étudié l'association entre un ensemble de biomarqueurs et la chance d'atteindre l'âge de 30 ans. Et on a pu mener cette étude avec 35 ans de suivi. C'est ça qui est intéressant, bien évidemment. Plus de 1200 participants à l'étude ont dépassé les 100 ans. 85% sont des femmes, à noter. 12 biomarqueurs sanguins liés à l'inflammation, au métabolisme, aux fonctions hépatiques, aux fonctions rénales ont été pris en compte. Des études antérieures avaient déjà lié ces éléments au vieillissement ou à la mortalité. Il y a des niveaux plus élevés de cholestérol total et de fer, ainsi que des niveaux plus faibles de glucose, de créatinine et d'acide urique qui ont été associés au fait de devenir centenaire. Ok. À partir de 65 ans déjà, les centenaires affichaient des valeurs de biomarqueurs plus favorables dans les biomarqueurs couramment disponibles que les personnes qui mouraient avant l'âge de 100 ans. Et donc, selon les chercheurs, ces différences dans les valeurs des biomarqueurs entre les centenaires et les non-centenaires plus d'une décennie avant le décès suggèrent que les facteurs génétiques et les facteurs de mode de vie visualisés dans ces niveaux de biomarqueurs peuvent jouer un rôle important pour devenir centenaire. Alors toutefois, l'étude ne permet pas de tirer des conclusions sur les facteurs de mode de vie ou les gènes responsables des valeurs du biomarqueur. C'est juste une tendance, c'est juste une constatation. Les différences constatées pour certains biomarqueurs restent faibles. Donc il faut un petit peu préciser cette étude. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que cette étude, elle est quand même assez vaste, on va dire, en termes de champ d'expérimentation, de champ d'analyse, parce qu'on est sur une durée et on est sur un nombre de personnes assez conséquentes. Et comme là, on parle de centenaires, et comme il y en a de plus en plus, ce genre d'étude va pouvoir se prolonger, ça va pouvoir être de plus en plus affiné, et on va avoir de plus en plus de données à pouvoir analyser, justement, essayer d'en tirer peut-être pas des conclusions, mais en tout cas des tendances, on va dire, et comprendre peut-être un petit peu mieux le secret de longévité de ces centenaires. Mais voilà, c'est une étude qui est assez intéressante, assez marquante, et c'est ce qui a été révélé dans cette revue. Autre question, cette fois concernant la Chine. On sait très bien que les programmes lunaires, les programmes d'exploration du système solaire se densifient, et la Chine a besoin de renforcer ses capacités de communication avec ses sondes spatiales et également des capacités de relais de données vers la Terre. Alors elle dispose quand même, la Chine, d'un réseau de communication avec l'espace assez lointain et avec la Lune. Et ce réseau, il est quand même sous-dimensionné pour couvrir ses besoins. Pour ses missions lunaires, la Chine est contrainte d'utiliser en support le réseau de l'Agence spatiale européenne, ce réseau qui compte 7 stations et plusieurs antennes réparties un petit peu partout dans le monde. Or, le programme lunaire de la Chine est très ambitieux avec une multitude de missions robotiques et des missions habitées également, avec en point de mire l'année 2029. 2029, c'est bientôt, c'est demain. Cette année 2029 doit voir 2 Chinois débarquer sur la Lune, très vraisemblablement pour célébrer le 80e anniversaire de la République populaire de Chine. Et à l'horizon 2040, donc là aussi c'est après-demain on va dire, la Chine prévoit de mettre en service une base lunaire habitée en permanence. Donc on est vraiment sur des échéances quand même assez courtes. Et pour cela, elle doit élargir son réseau qui compte 7 stations en Chine. Il y en a une en Argentine et il y a également un centre de traitement des données à Shanghai. Et elle veut essayer aussi de gagner en autonomie, bien sûr. La Chine entreprend donc la construction d'un radiotélescope de 40 mètres de diamètre. Cet instrument, qui est développé par l'Observatoire astronomique de Shanghai, sera mis en service dans à peu près un an. Et il est annoncé entièrement mobile. Cet observatoire, il est installé sur un site qui a aussi comme intérêt d'être un lieu idéal pour l'observation radio et radar du ciel, en raison notamment d'une météorologie particulièrement favorable à ses longueurs d'onde. Et donc il pourra conduire des observations radio et des observations radar en réseau si nécessaire, et des observations donc du système solaire et de ce qu'on appelle l'espace profond, notamment au niveau des trous noirs et de certaines galaxies. Enfin, cet observatoire pourra vraisemblablement être utilisé pour la radiosurveillance de l'orbite géostationnaire et des orbites basses, parce qu'on a du mal à imaginer que l'armée chinoise n'utilisera pas un instrument très récent pour le doter de capteurs capables d'identifier les émissions radio et radar des satellites, ce qui va permettre de déterminer un petit peu la position, la stabilité, toutes les caractéristiques également, et aussi d'étudier les brouillages radio dus aux satellites, la recherche de satellites inconnus, et tout cela, du coup, la Chine va lancer a lancé déjà un programme assez important. Et donc voilà, il y a cette construction de ce radiotélescope de 40 mètres de diamètre. La Chine veut devenir autonome et elle veut avancer seule. Et si elle communique, on saura ce qui se passe. Si elle communique pas, ça va être assez difficile pour les autres agences spatiales, Europe, États-Unis et autres, de pouvoir essayer de comprendre où on est l'avancée de l'exploration spatiale de la Chine. Et oui, je vous l'ai toujours dit, mais il y a déjà longtemps que je vous en parle, hein, cette décennie va être formidable d'un point de vue de la recherche spatiale. Alors on écoute un peu de musique sur l'antenne de Graphite et on continue ensemble à feuilleter l'actualité scientifique. 1, 2, 3, here we go. 1, 2, 3, here we go.
He's trash people. No sex, no sex, a Ben Rama now. Ben Rama, trash people. No sex, no sex, a Ben now. Nah. Nah. No sex, a Ben. Nah. Nah. Ben Rama, trash people. No sex, no sex, a Ben Rama now. One liner, big liner. No sex, no sex, a Ben Rama. Fat trucker, cheap sucker. No sex, no sex, a Ben Rama now. Cheap faker, cheap, cheap faker. Looking like a poor man's Arthur Baker now. Cheap, cheap faker, looking like a poor man's Arthur Baker now. Ben Rama, big time lover, tried to snatch a kitty off his girlfriend's mother. We gotta freeze him out now, we gotta freeze him out. Oh, come on, let's go. Freeze!
No Sex for Ben, c'était Rapture sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Beauty In tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. Vous nous écoutez sur 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et Graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Hein. Vous avez la possibilité de pouvoir récupérer les podcasts des émissions de Graphite sur Internet. Donc comme ça, vous nous suivez en direct ou en différé hein, quand vous avez le temps de pouvoir nous écouter. Tout est sur le site Internet de Graphite et bien sûr la page Facebook pour vous tenir informé de l'actualité de votre radio curieuse. Une première mondiale qui ouvre une voie pleine d'espoir aux malades. On a eu la première greffe complète d'un œil. Ça a été réalisé en mai dernier. On le sait maintenant et on considère officiellement que c'est un succès. Ce sont les équipes médicales de l'université américaine de Langone qui ont accompli cet exploit, une prouesse d'autant plus exceptionnelle qu'il s'agit d'une greffe combinée parce que le patient a reçu un œil gauche en même temps qu'une partie du visage d'un donneur. 5 mois plus tard, il n'a pas recouvré la vue mais son œil est dans un état remarquable et il présente notamment une irrigation sanguine directe de la rétine qui est la zone située à l'arrière de l'œil qui reçoit la lumière et qui transmet les images au cerveau. C'est ce que détaille l'institution dans un communiqué publié il y a quelques jours. Le receveur s'appelle Aaron James. C'est un vétéran militaire américain grièvement blessé en juin 2021. Il travaillait sur une ligne à haute tension. Il a reçu une charge de 7200 volts sur le visage, responsable notamment donc de la perte de son œil gauche, de l'ensemble du nez et des lèvres, des dents de devant, de la partie gauche de la joue et du menton jusqu'à l'os. Waouh, c'est assez violent quand même. Il était donc éligible pour une greffe et il a finalement été pris en charge par les équipes du docteur Rodriguez, connu pour avoir déjà réalisé 5 greffes de visage. Et donc le docteur Rodriguez a pris la décision, en collaboration avec l'équipe du centre de transplantation et de thérapie cellulaire de l'hôpital, de combiner l'œil avec des cellules souches issues de la moelle osseuse du donneur. Ces cellules indifférenciées, hein, les cellules souches, sont connues pour leur capacité à se diviser encore et encore pour créer des cellules saines susceptibles de remplacer des éléments endommagés ou dysfonctionnels. Et donc, elles ont donc permis d'optimiser la régénération nerveuse du greffon. Et donc, le succès est complet puisque les médecins pensait que la greffe ne tiendrait que 3 mois. Il s'agit d'un pas extraordinaire dans la bonne direction. Hein, c'est ce qu'explique Steven Galetta, qui est neuro-ophtalmologiste et qui travaille notamment dans cette université Langone. Nous franchissons maintenant la frontière du système nerveux central. Une avancée sans précédent, même si l'incertitude demeure autour de la possibilité de recouvrer la vue après une telle opération. Mais voilà, la greffe d'un œil complet connecté au système nerveux central, cette greffe a été réussie. Et donc c'est officiellement un succès, c'est pour ça qu'on ne le sait que maintenant. Autre information, ça fait désormais plusieurs années que les chercheurs travaillent au développement de sortes de feuilles artificielles, entre guillemets, des systèmes qui pourraient s'inspirer un petit peu de la photosynthèse pour produire, par exemple, de l'hydrogène vert à partir de sources d'eau. Et avec le système flottant qu'elle détaille dans les pages de la revue Nature Writer, il y a une équipe de l'université de Cambridge qui va plus loin parce que son dispositif est capable de produire à la fois de l'hydrogène et de l'eau propre directement à partir d'eau de mer salée ou à partir d'une eau qui serait assez polluée. Et c'est totalement intéressant. Pour mesurer la prouesse, il faut savoir que traditionnellement, la production d'hydrogène par électrolyse se fait partie d'une eau pure. Et donc là, si on utilise de l'eau de mer ou si on utilise de l'eau très polluée, eh bien, c'est assez... C'est une belle prouesse parce que le moindre contaminant peut nuire au bon fonctionnement du système en provoquant par exemple des réactions chimiques indésirables. Et donc pour contourner ce problème, les chercheurs de l'université de Cambridge ont déposé ce qu'on appelle un photocatalyseur sur des feuilles constituées de carbone. On a fait une espèce de maillage de carbone. Bon, il y a tout un dispositif à mettre en place qui est difficile à expliquer au niveau de la radio, mais l'idée c'est que il était possible de pouvoir optimiser l'absorption de la lumière et de la chaleur pour produire de la vapeur qui est utilisée par ce photocatalyseur pour libérer de l'oxygène, de l'hydrogène, pardon, et le tenir aussi éloigné de l'eau et de ses contaminants. C'est ça qui est intéressant. Et donc, pour permettre au système de mieux exploiter l'énergie du soleil, les chercheurs ont appliqué une couche blanche qui va absorber les ultraviolets sur ce dispositif flottant pour la production d'hydrogène. Le reste de la lumière du soleil est transmis au bas de l'appareil, ce qui vaporise l'eau qui sera ensuite récupérée. C'est une manière d'imiter un peu plus les vraies feuilles des arbres en lui permettant un petit peu de transpirer, si on peut dire, si on veut essayer d'avoir une analogie. C'est un petit peu cette idée-là. Les chercheurs signalent que leur système n'en est encore qu'au stade de la, ce qu'on appelle le proof of concept, c'est-à-dire un petit peu la preuve de principe, c'est-à-dire qu'on est encore sur une phase très expérimentale d'un prototype qui a montré que ça pouvait fonctionner. Donc on est au début de l'étape. Mais ils espèrent bientôt pouvoir le faire fonctionner dans de nombreuses régions du monde qui sont confrontées à la fois à une crise énergétique et à une crise de l'eau. Une innovation qui serait la bienvenue, bien sûr, parce que dans le monde, on estime à peu près à 2 milliards de personnes le nombre de personnes justement qui n'ont toujours pas accès à l'eau potable chez elles. Et donc, du coup, cette technologie, cette idée permet de produire de l'hydrogène et de l'eau directement à partir d'une eau polluée. Et bien sûr, ça pourrait tout changer, ou à partir de l'eau de mer. C'est l'un des défis, hein, il faut bien se rendre compte de cela. La production d'énergie est le défi de l'avenir qui nous attend, parce que sur une planète qui accueille de plus en plus d'humains, eh bien, l'énergie utilisée va être de plus en plus utilisée. Donc il va falloir, en contrepartie, en produire de plus en plus. Sauf que cette énergie, elle doit être produite sans qu'il y ait d'impact sur notre environnement. Vous connaissez bien toutes ces difficultés-là. Si vous êtes fidèle à cette émission, on voit très bien qu'on est sur des problématiques qui ne sont plus du tout des problématiques d'ordre local, mais bien au niveau totalement planétaire. Et là, ce prototype est vraiment intéressant. Pour l'instant, bien sûr, on n'en est qu'au tout début. Hein, on est sur une première marche, mais en tout cas, ça peut être assez significatif pour la suite. Donc, on verra un petit peu le déroulé de cette étude, s'il communique, bien sûr. Parce que cette information, elle est un petit peu en lien avec d'autres informations, d'autres annonces qui ont été faites, et notamment ces chercheurs de l'École Polytechnique Fédérale de Zurich, hein, en Suisse, qui a publié à la fin de cet été une étude inquiétante dans la revue Nature Communications. Cette étude montrait que le risque de décès lié à la chaleur a augmenté rapidement au cours des 20 dernières années. Pendant l'été 2022, plus de 61 000 morts ont été causées par la chaleur dans l'Europe. Une étude à peine plus ancienne et publiée par des chercheurs de l'université de Berne, cette fois toujours en Suisse, révèle quant à elle que plus d'un tiers des décès liés à la chaleur enregistrés entre à peu près une trentaine d'années, à 1991-2018, eh bien, ces décès sont aussi liés au changement climatique. Et aujourd'hui, on assiste cette fois à la publication d'un rapport de la revue médicale The Lancet, rédigée cette fois par une équipe internationale de plus d'une centaine d'experts de la santé, qui nous apprend qu'en 2022, chaque humain sur notre planète a été exposé en moyenne à 86 jours d'une chaleur dangereuse pour sa santé. 86 jours par an, c'est quand même assez fascinant. Plus alarmant encore, les experts affirment que si notre monde devait se réchauffer de plus 2 degrés au-dessus de la moyenne pré-industrielle, c'est la limite haute qui avait été envisagée par l'accord de Paris sur le climat lors de la COP21. Nous en sommes à plus 1,14, donc on va bientôt atteindre ces plus 2 degrés, il ne faut pas se leurrer. Eh bien, cette étude internationale annonce que le nombre de décès dû à la chaleur augmenterait de pas moins de 370% d'ici le milieu de notre siècle. C'est-à-dire que c'est presque une multiplication par 5. D'ici le milieu du siècle, on en est au premier quart du siècle. C'est pour demain. Et donc, du coup, ces chiffres sont assez inquiétants. Pour la première fois aussi, les chercheurs ont poussé leur analyse jusqu'à évaluer comment les choses seraient passées jusqu'ici si les températures n'avaient pas augmenté depuis les années 1990. Et Marina Romanello, qui est la directrice exécutive de ce rapport, explique « Nous aurions constaté moins de la moitié de l'augmentation de la mortalité liée à la chaleur que nous avons enregistrée dans la réalité. Notre inaction climatique, nous la paierons en vie humaine. » Alors, c'est un constat, bien sûr, qui a poussé environ 46 millions de professionnels de la santé à appeler la présidence de la COP28 qui a lieu en ce moment à Dubaï pour œuvrer en faveur de l'élimination des combustibles fossiles qui, en plus de réchauffer la Terre, polluent également notre atmosphère, en tout cas l'air que nous respirons. Et cette année se profile comme étant l'année la plus chaude jamais enregistrée. 2023 sera apparemment l'année la plus chaude. Et la hausse des températures n'est pas la seule à menacer notre santé. Les zones de sécheresse extrême ont aussi augmenté de près d'un tiers depuis les années 1950. Le nombre de personnes exposées à des bactéries potentiellement dangereuses, eh bien ce nombre a également explosé depuis une quarantaine d'années. Et dans un exemple, les cas de dengue pourraient augmenter de près de 40%, c'est quand même assez affolant. En parallèle, les Nations Unies publient elles aussi un rapport montrant que les gouvernements ne font pas clairement suffisamment d'efforts pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, pour nous éviter les pires impacts du réchauffement climatique. Alors, les objectifs sont fixés par chacun. Mais ils ne sont pas tous tenus, bien évidemment. Ce ne sont que des paroles et il manque les actes. Nous allons dans la direction opposée à celle que nous devrions prendre. C'est ce que regrette Marina Romanello. Et la mortalité n'est que la partie émergée de l'iceberg. En effet, le rapport évoque une perte de plus de 500 milliards d'heures de travail en 2022, arrêt maladie, une hausse de près de 42% par rapport à la période qui concerne la fin des années 1990. À cette allure, les pertes économiques pourraient devenir colossales, bien sûr, sans parler des pertes de moyens de subsistance et de bien-être. Les experts estiment que d'ici 2050, plus de 500 millions de personnes pourraient souffrir d'insécurité alimentaire dans le monde. Pour les chercheurs, il est donc plus que jamais clair qu'il faut agir de toute urgence sur le réchauffement climatique pour atténuer ses impacts sur la santé. Voilà, beaucoup de chiffres, mais des chiffres alarmants, évidemment. Et ce n'est pas la première fois qu'on en parle dans cette émission. Mais là, du coup, il y a encore un cri d'alerte. Peut-être que la COP28 va aboutir à des choses peut-être un petit peu plus intéressantes ou en tout cas un petit peu plus pragmatiques. On l'espère, on le souhaite bien sûr. En tout cas, dans cette émission, on restera toujours informé sur ces choses-là. Allez, on continue à écouter un peu de musique parce qu'à un moment, il faut quand même qu'on soit un petit peu plus optimiste. We'll be right back. No More Heroes, c'était The Stranglers sur l'antenne de Graphite. Il y a quand même parfois une actualité scientifique plutôt optimiste et réjouissante. Alors, on va faire quelques lectures de ces articles qui sont plutôt prometteurs. Alors, au niveau médecine, l'année dernière, des chercheurs avaient montré qu'une stimulation électrique de la moelle épinière permettait de restaurer la marche chez des personnes paralysées. On en avait parlé dans cette émission. Aujourd'hui, ces résultats prometteurs peuvent même être appliqués aux patients atteints par la maladie de Parkinson. L'idée de développer une neuroprothèse stimulant électriquement la moelle épinière pour harmoniser la démarche et corriger les troubles locomoteurs de patients qui sont atteints de la maladie de Parkinson est le fruit de plusieurs années de recherche sur le traitement de la paralysie due aux lésions médulaires. C'est ce qu'a déclaré Grégoire Courtine, professeur en neurosciences à l'Université de Lausanne. Environ 90% des personnes atteintes par la maladie de Parkinson à un stade avancé présentent des troubles de la marche qui invalident. Il y a également des chutes. Il y a ce qu'on appelle un phénomène de freezing, c'est-à-dire les pieds restent collés au sol pendant la marche. Cela s'explique par la dégénérescence des neurones producteurs de dopamine au niveau cérébral, ce qui est caractéristique de la maladie, parce que la dopamine, elle est impliquée dans le contrôle de nombreuses fonctions, comme notamment les mouvements volontaires et la cognition. Donc il existe des traitements qui ciblent les régions du cerveau directement touchées par la perte des neurones à dopamine et traitent déjà les symptômes comme les tremblements et la rigidité. Mais certains troubles de la marche persiste en lien avec l'équilibre, l'instabilité de la posture et ce fameux phénomène de freezing. Et donc des équipes de recherche françaises et suisses ont développé une neuroprothèse qui vise la zone de la moelle épinière responsable de l'activation des muscles des jambes pendant la marche. Ils l'ont d'abord testée dans un modèle de primate qui reproduisait les déficits locomoteurs dus à la maladie de Parkinson. Avant de mettre en place un premier essai clinique, le processus de développement de la neuroprothèse qui a permis aux patients atteints de la maladie de Parkinson de marcher avec fluidité, confiance et sans chute, eh bien, ce processus a été détaillé dans la revue Nature Medicine. Marc, qui est un Bordelais de 62 ans atteint par la maladie de Parkinson depuis 30 ans, ne répondait pas bien aux traitements disponibles comme la stimulation cérébrale. Il a donc été équipé de cette nouvelle neuroprothèse constituée d'un champ d'électrodes placé contre la région de sa moelle épinière qui contrôle la marche et également un générateur d'impulsions électriques implanté sous la peau de son abdomen. Et grâce à une programmation ciblée des stimulations de la moelle épinière qui s'adapte en temps réel à ses mouvements, Marc a rapidement vu ses troubles de la marche s'estomper. Après une rééducation de quelques semaines avec la neuroprothèse, il a retrouvé une marche presque normale, c'est ce que relate donc à communiquer. Ce premier test réussi devrait ouvrir la voie à une optimisation de l'implant afin de le développer à grande échelle, bien évidemment. Et les chercheurs expliquent, notre ambition est de générer et de généraliser l'accès à cette technologie innovante afin d'améliorer significativement la qualité de vie des patients atteints de la maladie de Parkinson partout dans le monde. Donc voilà, c'est assez intéressant parce que là, on voit vraiment le suivi de cette recherche. On avait parlé des premières étapes et là, on est sur un patient atteint par la maladie de Parkinson qui retrouve une marche fluide grâce à cet implant. C'est bien sûr une percée majeure dans le traitement de cette maladie. Donc voilà, ça c'est une première information assez réjouissante. Deuxième information réjouissante concernant cette fois les véhicules électriques. Certains considèrent que c'est la solution pour la mobilité du futur. Par contre, il y a d'autres personnes qui pointent du doigt la pollution liée à sa fabrication. Eh bien, il y a un nouveau moteur électrique qui a été conçu par Renault et Valeo qui propose une alternative qui ne recourt pas aux terres rares et qui offre une grande efficacité largement supérieure à ce que propose le constructeur automobile actuellement. Depuis 2012, Renault est devenu un spécialiste du moteur électrique avec Rotor Bominé, notamment avec l'apparition de la Zoé. Alors cette technique, elle permet de ne pas recourir aux aimants permanents souvent employés par la concurrence. Et si l'expérience accumulée par le constructeur lui permet d'améliorer continuellement ses moteurs électriques, eh bien le marché de la voiture électrique s'est rapidement développé ces dernières années. Il y a de nombreux acteurs venus de toutes parts qui ont envahi les salons automobiles en proposant des moteurs puissants, des batteries qui qui offre des grandes autonomies et bien sûr la concurrence fait rage. Renault s'est donc associé à Valeo, fabricant français des composants automobiles depuis plusieurs décennies. Et donc, ils ont créé le projet E7A, qui est un moteur nouvelle génération. Cette nouvelle évolution du moteur électrique permet de donc ne pas recourir aux terres rares, tout en offrant une forte puissance et un encombrement plutôt réduit. Alors la marque annonce réduire de 30% son empreinte carbone sur ce type de motorisation comparativement à la version qui équipe la Mégane E-Tech ou le Scénic E-Tech jusqu'à maintenant. Alors, il reste bien sûr la problématique des batteries et de ses composants, mais c'est déjà un progrès assez intéressant et notamment une première mondiale. Le moteur, donc le E7A, profitera également d'une architecture fonctionnant sous 800 volts au lieu de 400 actuellement chez le constructeur. Cela laisse envisager un temps de recharge réduit. La conception de ce nouveau moteur permet de réduire son encombrement également de 30% à puissance équivalente. Cela représente un gain de place, un gain de poids également pour les futurs véhicules équipés. C'est assez important parce que le poids, c'est souvent l'ennemi de l'autonomie sur ce type de véhicule, parce que plus le véhicule est lourd, plus il est difficile de pouvoir l'emmener loin avec une seule recharge. Tout le monde garde en mémoire la dépendance, bien sûr, de notre économie aux pays étrangers pendant la période de la crise sanitaire dans les années 2020-2021. Et donc, en n'ayant pas à recourir aux terres rares ou aux aimants pour assembler ces nouveaux moteurs, eh bien, Renault et Valeo sécurisent un petit peu leurs approvisionnements et leur indépendance aux pays étrangers. Alors, cette annonce, elle est intéressante sur bien des points, mais il faudra quand même patienter jusqu'en 2027, nous dit-on, pour que le développement soit achevé par ces équipes de recherche. Mais voilà, c'est assez intéressant parce que on parle pas nécessairement beaucoup de la France en ce qui concerne les véhicules électriques. Et là, il y a une annonce qui est assez intéressante et qui permet de renforcer un peu l'autonomie industrielle française, bien sûr. Donc ça, on suivra cette information. Et puis, dernière information plutôt positive, parce que là, c'est dans la phase, on va dire, la phase plutôt optimiste de cette émission, concernant la santé des astronautes. On sait que les points de vigilance sont assez nombreux. Il faut savoir que les séjours dans l'espace ont des conséquences sur les os, sur les muscles, sur plusieurs organes du corps, avec par exemple des pathologies oculaires, des thromboses veineuses, des troubles sensoriels qui sont combinés aux radiations et puis une modification du système cardiovasculaire. Ça, on en avait déjà parlé et on avait déjà étudié cela. La santé mentale des astronautes en prend également un coup lorsque ces derniers sont en orbite. Pendant une mission spatiale, et ce, quelle que soit la durée, les astronautes vivent dans un certain isolement, un environnement très peu stimulant, avec des tâches répétitives. Ils font un travail stressant et sous tension qui peut être épuisant mentalement, mais surtout potentiellement entraîner des troubles de santé mentale. Et donc, pour remédier à cela, les agences spatiales ont prévu tout un arsenal de mesures préventives afin de contrer tous ces effets indésirables. Alors, concrètement, les astronautes s'astreignent à de l'activité physique plus ou moins récréative. Ils s'astreignent à bien dormir, à avoir de vraies périodes de détente avec des moments de communication qui permettent aux astronautes de rester en contact avec leur famille et leurs amis sur Terre. Pour cela, la technologie est un formidable outil. Donc, pour communiquer, les astronautes utilisent la téléphonie spatiale, Internet, les systèmes de vidéoconférence. Et dernière innovation en date, ils utilisent aussi la réalité virtuelle. Ça s'avère être un outil qui pourrait bien devenir indispensable aux futures missions habitées. C'est dans ce contexte que North Space Apps a lancé une initiative d'assistance virtuelle pour l'équilibre mental. L'idée, c'est de répondre aux besoins spécifiques des astronautes pour maintenir donc leur santé mentale en orbite. Et cette thérapie spatiale en réalité virtuelle s'effectue effectue avec un casque spécifique, avec un mode simulateur qui a été spécialement développé et adapté pour fonctionner en apesanteur. C'est l'astronaute européen de nationalité danoise Andreas Mogensen, qui est actuellement à bord de la Station Spatiale Internationale, qui sera le premier astronaute dans l'espace à utiliser un casque de réalité virtuelle à des fins de prévention. Alors, dans le passé, l'utilisation d'un casque de réalité virtuelle en micro-apesanteur posait de multiples défis en matière de suivi et d'orientation, parce que les mouvements, les roulis, les dérives du contenu provoquaient des nausées. Ça empêchait les astronautes de lire le contenu dans le casque. Et en microgravité, il n'y a pas de vecteur de gravité pour aligner l'orientation, ce qui crée naturellement une dérive au point où le casque de réalité virtuelle devient inutilisable et il devient instable. Et donc les projets précédents avec d'autres casques de réalité virtuelle ont entraîné une perte de suivi. Après seulement quelques minutes d'utilisation, ça ne fonctionnait pas. Et bien là, on est sur la conception d'une plateforme de réalité virtuelle qui pourrait fonctionner dans l'espace en utilisant un mode simulateur et une méthodologie de suivi spécialisée via les contrôleurs. Ce casque qui est configuré afin qu'il puisse être utilisé dans des conditions de micro-pesanteur, il repousse un petit peu les limites de ce qui était possible en réalité virtuelle. Et du coup, on est sur quelque chose d'assez intéressant parce qu'on est sur une réponse aux besoins des astronautes en matière de santé mentale pendant leur isolement et qu'ils puissent essayer de maintenir un mode de vie sain lorsqu'ils reviennent sur Terre. Donc voilà, on est sur une innovation dans l'espace et une expérimentation grandeur nature avec cet astronaute danois qui va donc expérimenter ce casque de réalité virtuelle et voir un petit peu si on peut préserver la santé mentale des astronautes. Ça ne doit pas être simple, effectivement, d'être là-haut. Ça fait rêver beaucoup de personnes. Je pense qu'objectivement, ça doit être très, très, très compliqué physiquement et psychiquement d'être dans l'espace. Donc, on suivra un petit peu les avancées de ces dernières propositions. Allez, on écoute un dernier titre dans cette émission et on continuera à développer la revue de presse de l'actualité scientifique. Thank you. C'était Molly Lewis avec Cabana de Mel. C'est sur l'antenne de Graphite. C'était doux, c'était sympa, ça fait du bien, je trouve. Un moment, ça apaise un peu. On a besoin d'apaisement. C'est ça qu'il nous faut, en fait. Vous écoutez Biotine sur l'antenne de Graphite sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. J'étais en train, alors là, j'ai plein de feuilles sur le studio qui recouvrent tous les boutons de, pour la prise d'antenne parce que j'étais en train de me dire tellement d'articles, je ne savais pas lequel prendre parce que je vois qu'on arrive à la fin de l'émission et finalement je ne pourrais pas tout faire ce que j'avais prévu. On arrive même presque à la fin de l'année, parce que la semaine prochaine, c'est la dernière émission de l'année, et j'aurai encore plein d'articles que je n'aurais pas pu évoquer en 2023. C'est dommage, mais c'est pas grave. C'est par voie de communiqué de presse que la découverte a été annoncée en Allemagne. Un homme ayant vécu au 15e siècle a été découvert lors de fouilles. Ok, c'est classique. Mais il portait une prothèse en fer à l'une de ses mains. Et une telle découverte n'est pas anodine, puisqu'elle permet d'en savoir un peu plus sur le traitement du handicap chez les populations anciennes. L'homme a pu être analysé in situ et après les fouilles, avec une analyse complémentaire au carbone 14, et ça a révélé que l'homme est décédé après avoir dépassé les 30 ans. On est sur une fenêtre de datation assez large, hein, parce qu'il aurait vécu entre 1450 et 1620. Donc effectivement, on faudrait peut-être préciser ça un petit peu plus. Bon, on va dire qu'on est au niveau du 15e, 16e siècle. Mais il est le témoin d'une époque de forts conflits et bien que nous ne sachions pas si sa blessure est liée à la guerre ou à un accident, l'étude des blessures de ces époques nous montre que les individus sont soucieux de pouvoir réparer les blessures et compenser les manques de membres. Et donc, elle était posée sur lui, une espèce de boule de terre et de métal qui venait couvrir l'os amputé. C'est au gré d'analyses supplémentaires et surtout de radiographies que la main de métal s'est révélée aux chercheurs. Grâce à la radiographie, il était possible de déterminer que seulement 4 doigts en métal étaient présents sur la prothèse, tandis que cette prothèse, on s'est rendu compte qu'elle tenait grâce au pouce de la main de l'homme. Et manifestement, il n'avait pas perdu son pouce, puisque l'os du pouce a été retrouvé, permettant d'indiquer que la prothèse tenait en partie grâce à ce doigt et à des liens dont les résidus ont été retrouvés lors des analyses de matière qui a révélé la présence de textiles. Et donc l'idée de lien en cuir n'est pas exclue. De plus, il y a un tissu similaire à de la gaze qui a été retrouvé à l'intérieur de la prothèse, probablement pour protéger le moignon de l'homme par la suite. Une prothèse qui pouvait irriter, et donc on peut imaginer que l'homme souffrait des frottements. Cette prothèse, elle est assez ingénieuse, mais pas complexe, puisque les doigts ne sont pas articulés et que l'individu ne pouvait pas pincer des objets pour les attraper, par exemple. Pourtant, il y a d'autres individus qui ont eu des prothèses très avancées, à l'image de Götz von Berlichingen, c'est au XVIe siècle, qui a perdu sa main à cause d'un boulet de canon. Il était surnommé « main de fer » à cause de sa prothèse. Sa première prothèse n'avait pas de doigts articulés, tandis que la deuxième prothèse, oui. Et ces éléments étaient si avancés pour leur époque qu'actuellement, des scientifiques continuent à essayer de comprendre les mécanismes de ces objets médiévaux ou assez incroyables, et puis comprendre aussi leur fabrication. Cette découverte s'avère majeure pour l'archéologie du handicap en Europe, pour des périodes où les causes de blessures ou d'amputations pouvaient être nombreuses. Et donc voilà, cette découverte d'un squelette du Moyen-Âge avec une main de fer, ça a été en Allemagne. Question, comme on arrive bientôt à la fin de l'année 2023, qu'est-ce qui nous attend en 2024? Eh bien, l'une des questions, c'est de savoir si le Soleil va provoquer un chaos sur Terre en 2024. Selon les récentes estimations de la National Oceanic and Atmospheric Administration, c'est l'agence américaine qui travaille sur l'océan et l'atmosphère, on constate que notre Soleil atteindra le maximum de l'activité de son cycle entre janvier et octobre 2024, donc très bientôt. et ce pic d'activité sera à la fois plus long et plus intense que ce que les experts avaient précédemment annoncé. Cette administration s'attend désormais à voir apparaître sur chaque mois de cette période entre plus de 150 taches solaires. Alors, y a-t-il pour autant quelque chose à en craindre ? Eh bien, la question semble vouloir refaire surface à l'approche de chaque maximum d'activité de notre Soleil. En 2012, par exemple, certains avaient voulu faire coïncider les prédictions de fin du monde avec une éruption solaire dévastatrice. Outre le fait que le maximum de l'activité solaire de ce cycle était prévu un peu plus tard, les scientifiques avaient alors rappelé que physiquement parlant, la situation ne pourrait tout simplement pas se produire et ne pourra jamais, même lors d'un cycle solaire particulièrement actif. Alors, qu'en est-il de ce cycle qu'on attend prochainement ? La nouvelle prévision nous oriente vers un cycle finalement bien plus actif que le cycle précédent en 2012. Il devrait quand même tout de même rester en dessous de la moyenne, nous dit-on, on l'espère. Si les experts travaillent malgré tout aussi sérieusement à prévoir toujours mieux les variations de l'activité de notre Soleil selon son cycle de 11 ans, c'est que cette météo spatiale, cette météo solaire peut tout de même avoir des conséquences. Bien sûr, sur notre Terre, les éruptions solaires peuvent avoir plusieurs effets, notamment de modifier temporairement l'état de notre haute atmosphère. Et ça peut avoir des perturbations, notamment sur la transmission des signaux de type GPS et des choses que l'on imagine un petit peu moins, comme par exemple les transactions financières, nous dit-on. Les éjections de masse coronale sont encore un peu plus à craindre. Elles envoient vers notre Terre des particules chargées qui peuvent perturber le fonctionnement de nos technologies. C'est ce qu'on appelle des tempêtes solaires, des tempêtes géomagnétiques qui peuvent produire des courants induits qui traversent notre réseau électrique. Il faut savoir que ce phénomène avait provoqué un blackout au Canada en 1989. Il y a eu 5 millions de personnes qui avaient été privées d'électricité pendant plusieurs heures. Et la fréquence de ce type d'événement est estimée par les chercheurs à 1 tous les 50 ans. Donc là, ça arrive apparemment. Et les experts rappellent que même les événements de météo spatiale mineure peuvent avoir des impacts. L'année dernière, il y a une quarantaine de satellites Starlink qui avaient été détruits par une tempête solaire. Et à cette époque, le Soleil était environ 2 fois moins actif qu'aujourd'hui. Donc c'est pas rassurant, je trouve, mais bon, c'est ce qui nous attend, nous dit-on. Ce qui est important de garder en tête, c'est qu'au fur et à mesure que l'activité du Soleil s'intensifie, la probabilité pour qu'une tempête solaire de grande ampleur survienne augmente, bien sûr, sans pour autant qu'il soit certain qu'un événement de taille à toucher nos réseaux et nos systèmes électroniques se produise. Donc on est sur une totale incertitude en clair. Or, pour nous préparer au mieux, eh bien les chercheurs continuent d'étudier la dynamique de notre Soleil. Ils améliorent, les chercheurs, sans cesse leurs prévisions. Ils se basent à la fois sur les observations passées, sur des données satellites, sur des modèles de plus en plus détaillés, de plus en plus précis, sur des simulations également. Ce qui permet d'avertir les gestionnaires de réseaux électriques, les opérateurs d'engins spatiaux, les pilotes de ligne, qui peuvent alors prendre les mesures nécessaires pour éviter des incidents. Les réseaux électriques, par exemple, sont désormais conçus pour être moins sujets aux surtensions. Les satellites sont conçus pour mieux résister à cette météo spatiale. Et n'oublions pas que l'approche du maximum solaire rime aussi avec la promesse de voir se multiplier les aurores boréales dans le ciel du Nord. Bon, ben ça peut être sympa. Parfois, mais un peu plus au sud, car les particules énergétique que nous renvoie notre Soleil ont aussi cet effet un petit peu merveilleux d'interagir avec les molécules de notre atmosphère pour illuminer nos nuits de couleurs assez éclairantes et assez inhabituelles, bien sûr. Donc voilà, ça va être compliqué, hein, ce Soleil qui est désormais proche d'atteindre son pic d'activité avec des conséquences sur notre Terre. On ne sait pas encore précisément quoi. On verra ça, on suivra ça, bien sûr. Et là, on ne parle pas encore précisément de chaleur. On parle tout simplement d'éruption solaire, de tempête solaire. Mais bon, ça risque d'être assez compliqué cette année 2024. Écoutez, on verra ça. Pour l'instant, nous sommes encore en 2023. On se retrouve la semaine prochaine pour une dernière émission de l'année sur l'antenne de Graphite. C'est la fin de cette émission de Biotine. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre attention. Vous pouvez continuer à écouter tous les programmes de Graphite sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et Graphite.net pour ceux qui nous écoutent bien sûr sur Internet. On se retrouve samedi prochain à 12h pour une nouvelle émission de Biotine, mardi à 10h pour la rediffusion. D'ici là, vous restez fidèles à l'ensemble des émissions de Graphite. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, merci, au revoir.